Voilà trois petites anecdotes. Il y a longtemps, alors que je passais à Paris, je me suis amusé à vérifier s'il y avait des entités au centre de Raja Yoga de Paris. Et j'en ai trouvé une en particulier qui avait l'air très intense et pas très sympathique, qui squattait un lit dans la chambre des invités, la Daddy's Room. Je ne me suis pas occupé d'ailleurs de la faire partir. Je l'ai laissé au super yogi de la place. Quand incidemment je l'ai mentionné aux sœurs, l'une d'entre elles s'est exclamée. Hey, je comprends maintenant. J'ai dormi dans ce lit pendant 3 jours durant les travaux dans notre chambre et j'ai eu les pires cauchemars de ma vie. Tout d'un coup, les entités devenaient une réalité pour elle. Une autre petite anecdote au Canada. J'ai trouvé une fois un esprit qui occupait lui aussi un lit dans un bâtiment que nous avions loué pour une retraite. J'ai été un peu brutal, j'ai manqué de diplomatie en lui enjoignant de quitter les lieux. À la même seconde, toute l'électricité du bâtiment a sauté. Quand on a cherché l'esprit, l'entité, on l'a trouvé près du panneau électrique. Le message était clair. Je lui ai alors dit, mentalement, qu'il pouvait rester dans le bâtiment s'il ne créait pas d'autres problèmes. Malheureusement, j'ai oublié de laisser vacant son lit préféré. Et la personne qui l'a occupé cette nuit-là a très mal dormi. J'ai entendu d'ailleurs plusieurs histoires de personnes qui, quelquefois, dans un hôtel, se faisaient attaquer par des entités. Une dernière histoire à Madouban. Une dernière petite anecdote. J'avais une dizaine d'années de pratique de Hatha Yoga avant Gyan. Et quand j'ai commencé la méditation, je me suis aperçu que je pouvais faire monter la Kundalini assez facilement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Kundalini, c'est une énergie très très puissante le long de la colonne vertébrale. Je m'en servais régulièrement pour allumer l'âme. Autrement dit, envoyer de l'énergie à l'âme et avoir un yoga rapide et intense. Ça fonctionnait très bien. J'en avais une bonne maîtrise et la vie était belle. Cela ne me créait pas de problème. Pourquoi pensez-vous que les anciens yogis de l'Inde consacraient tant d'asanas et d'attention pour éveiller la Kundalini? Car c'est un des outils pour augmenter notre énergie, notre yoga et réveiller les pouvoirs spirituels. Un jour, il y a une trentaine d'années, dans le History Hall, Daddy Gulzar donnait un rishti général. Quand son rishti est arrivé à moi, une énergie m'a frappé brusquement sur le front, puis est descendue le long de la colonne vertébrale et a frappé le bas. Cela a résonné dans mon corps. Et cela a bloqué la Kundalini. Pendant des années, je me suis demandé ce qui s'était passé. Récemment, je me suis aperçu de la présence d'un implant éthérique au niveau du chakra de la base, qui bloquait l'énergie de la Kundalini. Je l'ai enlevé et 30 ans plus tard, l'énergie recommence à circuler de nouveau. Intéressant, intéressant. Je suis sûr que Daddy n'a eu aucune conscience de cet événement. Quelqu'un semble donc avoir utilisé la gentille Daddy Gulzar pour installer un implant et probablement siphonner mon énergie. On n'arrête pas le progrès. Y en a-t-il d'autres comme moi qui se font pirater leur énergie? Avez-vous déjà rencontré des biquets épuisés? Peut-être que ce n'est pas juste le manque de sommeil. Cette dernière aventure m'amène à me poser quelques questions sur le drishti. Avec le développement de l'informatique dans nos maisons, on peut maintenant y contrôler plusieurs éléments à distance, même à partir de nos téléphones portables. On aurait difficilement imaginé ces possibilités il y a quelques dizaines d'années. Quelles sortes de technologies ont pu être développées depuis des millions d'années à travers le cosmos? Cela doit être fabuleux, inimaginable. Si vraiment il existe des civilisations qui évoluent depuis des millions d'années, pour ne pas dire des milliards, on pourrait imaginer que leur degré de sophistication est extrêmement élevé. On pourrait y penser qu'ils peuvent nous influencer sans même que nous nous en rendions compte. Un peu comme les esprits logés dans notre aura. Peut-être que nous sommes parfois nous-mêmes des instruments involontaires pour influencer d'autres personnes avec des technologies sophistiquées. En effet, quand quelqu'un donne le drishti, il fournit l'onde porteuse. Mais il ne contrôle pas le contenu du message ou de l'expérience. Il fait confiance que ce sera l'énergie divine seulement qui sera transmise dans ce regard. Mais le donneur de drishti ne sait pas ce qui est véhiculé dans ce champ énergétique. On pourrait imaginer que d'autres choses soient aussi transmises à son insu. Des implants éthériques, par exemple. Ou même des entités. On peut comparer le drishti avec une manette de télécommande, d'une télévision. Quand on utilise une télécommande, on dirige un faisceau de rayons infrarouges dans une certaine direction, et quand on appuie sur les touches, différents codes voyagent dans ce rayon et sont interprétés par la télévision. Tout cela se fait de façon très subtile, mais très réelle, puisqu'on peut en constater soi-même les résultats. Quand on donne un drishti, on envoie une onde en direction des receveurs. Qui a-t-il dans cette onde? Quelle sorte de code est envoyé? Se pourrait-il qu'une âme spéciale très avancée, ou un extraterrestre, puisse y mettre des virus atmiques ou des informations pour nous influencer, nous programmer à notre insu et à l'insu de l'émetteur? Se pourrait-il que l'innocence des brahmines soit utilisée pour en contrôler d'autres, pour installer des implants générateurs de bons biquets convaincus et enthousiastes pour le service? Ou pour installer des mises à jour dans leur programme intérieur? Peut-être qu'on enseigne aux brahmines de méditer les yeux ouverts pour des raisons spéciales que nous n'avons même jamais envisagées. En Inde, les biquets ont la réputation d'hypnotiser les gens. En 34 ans, je n'ai rencontré qu'un seul biquet qui a volontairement, sciemment, essayez de m'hypnotiser. Ce n'est donc pas la norme, c'est l'exception. Mais peut-être que cette réputation vient de ce transfert de quelque chose d'impalpable, d'intangible. Et ce quelque chose pourrait très bien être une technologie très subtile, très sophistiquée, dont les biquets seraient les vecteurs involontaire et inconscient. Utilisons un peu notre imagination en faisant un parallèle avec l'informatique. Une super biquet s'installe sur le gadi pour donner le drishti. Comme elle est un bon instrument, elle est capable de laisser passer l'énergie à travers elle et aussi de ressentir ce qui se passe en face d'elle. Elle devient donc une sorte de borne Wi-Fi. Elle utilise alors le mot de passe magique, Baba, qui la relie automatiquement à la zone biquée d'un super ordinateur de la quatrième ou cinquième dimension. Quand elle commence à donner le drishti, elle établit par le regard une connexion par onde avec une âme que nous allons appeler Ordi One, ordinateur 1. Le supercomputer scanne alors Ordi One et analyse à la vitesse de la lumière son histoire et ses programmes. Il évalue alors quel programme, ou quelle mise à jour, ou quelle expérience, ou quelle intuition pourrait être utile pour renforcer sa vie biquée, ou son enthousiasme pour le service, ou pour faire un don quelconque. La mise à jour se fait elle aussi à la vitesse de la lumière, et très incognito. Puis l'instrument passe à Ordi 2, puis Ordi 3, etc. Et tout cela se passe bien entendu accompagné d'une belle énergie emplie d'amour. Et voilà, le tour est joué. Comme je vous le disais, c'est peut-être juste de l'imagination. Mais on sait que parfois, la réalité dépasse la fiction. À suivre.